Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité.
Et si les extraterrestres nous avaient lancé un ultimatum, comment cela aurait pu se passer? Pour en savoir plus, Richard Glenn. Bonsoir Richard.
Oui, bonsoir Bob.
Comment ça va?
Ça va très bien, et vous?
Oui, très très bien. L'ésotériste du Nouveau Monde, animateur et concepteur et producteur de l'émission Ésotérisme Expérimental. Vous avez animé une émission de télé au Québec entre 1976 et 1997. Donc 20 années passées à essayer de comprendre ce que beaucoup disent que c'est incompréhensible. Puis vous diffusez maintenant sur Internet, vous êtes diplômé en psychologie. On va ce soir évoquer, on va faire un peu comme Orson Welles finalement, on fait une sommation extraterrestre.
Oui, monsieur. D'abord, vous êtes vous-même Bob à la radio.
Oui.
Et il y a 75 ans, très précisément le 30 octobre 1938, Orson Welles présentait une façon théâtrale et à la moderne le fameux livre La guerre des mondes.
Mm-hmm.
Et ça avait créé une panique sur les États-Unis incroyable parce que les gens, en l'écoutant, peut-être pas en l'écoutant dès le début, ben, ils ont cru que c'était un fait réel qui est en train de se dérouler.
Ouais.
Alors aujourd'hui, Bob, je vous propose, puisqu'on parle souvent ici à l'émission Bob, vous dites toute la vérité, de parler du phénomène extraterrestre dans des faits qu'on pourra vérifier dans l'actualité, qui se sont produits sous nos yeux il y a quelques années. Ça a débuté avec le fameux congrès, le sommet de Copenhague,
ouais,
en 2009, en décembre 2009 précisément, où ils sont intervenus. Alors que les chefs des nations du monde étaient tous réunis à Copenhague pour la fameuse rencontre qu'on appelle la rencontre Copenhague numéro 15,
mm-hmm,
étant donné que c'était la 15e rencontre sur l'état de la planète, l'état de notre monde et de la Terre,
mm-hmm,
surtout sur l'aspect écologique.
Mm-hmm.
Alors, est-ce qu'on peut voir et entendre le début de l'émission de
Orson Welles? Oui. Alors, on rappelle 1938. Écoutez, c'est assez incroyable. D'ailleurs, Jean-Claude Bourret, qui était venu ici, nous en avait parlé. Hein. Écoutez donc ça.
Le 30 octobre 1938, Orson Welles et sa troupe de théâtre du Mercury diffusent à la radio une adaptation du roman de science-fiction La guerre des mondes. Cette histoire d'une invasion martienne, transposée dans le New Jersey aux États-Unis, est présenté sous forme de flash et de reportage, passe pour un vrai direct et provoque une confusion. Les auditeurs effrayés inondent les standards téléphoniques d'appels.
The H.G. Wells classic, which is the original for many fantasies about...
Le classique de H.G. Wells, La guerre des mondes, qui est à l'origine de beaucoup d'histoires fantastiques sur les invasions des martiens, a eu un effet indéniable sur les auditeurs.
L'effet est bel et bien de taille. Le psychiatre suisse Carl Jung décrira plus tard que la peur de l'invasion d'extraterrestres était réelle et coïncidait avec la montée de la paranoïa causée par l'approche imminente de la guerre mondiale en 1938.
Alors, Richard Glenn, ça fait partie, pour vous, du processus de divulgation. Vous pensez que dans cette sommation extraterrestre, en fait, on s'aperçoit avec tous les faits que vous allez nous présenter que les extraterrestres sont déjà parmi nous et ils sont déjà venus nous voir.
Et c'est pour protéger Bob et Richard Glenn dans la diffusion des informations que je vais vous donner dans l'heure qui suit. De façon à ce qu'on se dise, entre vous et moi,
ouais,
il s'agit de fiction. Et on a entendu Bernard de Montréal la dernière fois lors de notre rencontre, on parlait des contactés.
Ouais.
Il disait qu'il y avait quatre niveaux d'extraterrestres, dont un qu'on appelle fiction.
Ouais.
C'est les idées. Et les idées transportent une énergie qu'on pourrait même concrétiser, que vous appelez l'égrégore. Vous en avez parlé à votre émission cette semaine.
C'est vrai.
Créer un égrégore.
Ouais.
C'est à partir d'idées, de la pensée de certaines personnes, qu'on pourrait créer une forme et créer la forme qui deviendrait une réalité.
Mmh.
Alors voilà ce qui nous protège de parler d'un événement qui a été connu dans l'actualité du monde entier et qui se rapporte à ce fameux sommet de Copenhague.
Mmh.
On écoute ce qu'on en disait au téléjournal de Copenhague.
Oui, on a l'extrait du journal 2009. Écoutez.
192 pays représentés, plus de 45 000 participants, des milliers de policiers mobilisés. Du 7 au 18 décembre, la planète entière s'était donné rendez-vous à Copenhague.
Copenhague, le port de l'espoir. C'est ainsi que le Premier ministre danois Lars Løkke Rasmussen a décrit ce que devait être la conférence de Copenhague lors de son ouverture.
Vous êtes les dépositaires des espoirs du monde entier pendant ces 15 prochains jours. Copenhague va être le creuset des espoirs de l'humanité. À la fin de cette conférence, nous devons avoir trouvé des solutions pour améliorer l'avenir de toute la planète.
Extrait donc du journal télévisé de 2009, sommet de Copenhague, Richard.
Oui, on était en décembre 2009. Et c'est la chose extraordinaire de se rendre compte qu'il y a eu une réponse presque instantanée. Disons que les autorités ont pris un peu de temps avant de confirmer leur présence, mais les chefs d'État étaient tous là, les principaux chefs d'État, 120 chefs d'État, chose incroyable, jamais vue, c'était une première. Et écoutez bien le discours d'introduction, d'ouverture de Nicolas Sarkozy, qui représentait la France, mais aussi l'opinion mondiale, au moment de l'ouverture de Copenhague.
Il faut changer de braquet pour cette conférence où nous allons droit à la catastrophe. Nous ne sommes pas ici pour un colloque sur le réchauffement climatique. Nous sommes ici pour prendre des décisions. Il y a un point qui nous rassemble tous, c'est que l'échec de Copenhague serait catastrophique pour chacun d'entre nous. Quelles que soient nos positions de départ, l'échec nous est absolument interdit. Tous, nous aurions des comptes à rendre devant l'opinion publique mondiale et devant nos opinions publiques.
Vous dites, Richard, que toutes ces déclarations à ce sommet de Copenhague en 2009 ont eu un rapport avec les extraterrestres.
Exactement. Et c'est les extraterrestres qui ont convoqué, je dirais de force, les autorités du monde à se présenter en personne et ne pas se contenter d'envoyer des délégations, comme la plupart du temps ils font dans ces réunions, comme à Rio un peu plus tard, à Kyoto ou ailleurs. Lorsqu'ils font ces rencontres, bien souvent, les gouvernements importants là préfèrent envoyer des représentants. Alors que là, c'était un ultimatum, vous allez venir ici en personne, on a des choses à vous dire et à vous montrer.
Alors, on va parler de tout cela, cet ultimatum lancé par les extraterrestres avec Richard Glenn. Émission assez incroyable ce soir jusqu'à minuit.
Contrairement à ce que disait Fox Mulder, la vérité est ici. Bob vous dit toute la vérité. La vérité. 21h minuit sur Ado.
Richard Glenn avec moi pour parler de ces extraterrestres. On a, Richard, déjà entendu des extraits de journaux télévisés, des extraits de discours, et notamment celui de Nicolas Sarkozy à Copenhague en 2009. Vous dites que les extraterrestres nous ont lancé un ultimatum.
Oui, c'est déjà il y a plusieurs années, on était en décembre 2009, il y a eu un développement depuis cette époque. Alors, il faut retourner à Copenhague pour se rendre compte comment les choses se sont passées dans la salle. D'abord, Copenhague, c'est au Danemark, et à 30 kilomètres en face de Copenhague, il y a la ville de Seeland, où il y a une école de Borup. L'école de Borup, les gens qui sont intéressés par l'ufologie en entendent parler depuis les années 50, où il y a des humains qui se disent en contact avec Ashtar, Shiran, Command, Orton. Le fameux Orton, qui lui aussi aurait rencontré George Adamski aux États-Unis au début des années 50, encore une fois, à l'époque où il y avait le fameux ballet de soucoupe volante au-dessus de Washington, le carousel Washington fin juillet 52. Alors, il y a eu à une époque après la Deuxième Guerre mondiale l'utilisation des bombes atomiques, le déclenchement d'un signal dans l'espace, dans l'univers, pour dire cette civilisation sur Terre est capable maintenant de s'auto-détruire très rapidement. Et les extraterrestres bienveillants ont dit aux humains, arrêtez d'utiliser l'arme atomique, arrêtez d'utiliser l'énergie nucléaire, parce qu'elle est très polluante, très nocive.
D'accord.
Vous n'êtes pas encore assez mature pour la gérer convenablement.
Donc,
alors, on a donné, en 2009, le prix Nobel de la paix à Barack Obama, qui venait juste d'être élu président des États-Unis pour la première fois.
Pourquoi lui?
Il n'a même pas un an, et on lui accorde le prix Nobel de la paix à la surprise de tous. Les gens se disaient, mais pourquoi lui?
Pourquoi lui? Réponse peut-être.
Le jury d'Oslo honore l'homme qui a attiré l'attention du monde entier, celui qui a renforcé la diplomatie internationale et la coopération entre les peuples.
I am both surprised and deeply humbled.
Je suis à la fois surpris et très humble devant la décision du comité du prix Nobel. Pour être franc, je ne le vois pas comme une reconnaissance de mes accomplissements, mais plutôt comme l'affirmation d'un leadership américain au nom des aspirations des peuples des nations du monde.
Car ce sont avant tout les intentions d'Obama qui sont récompensées par le jury d'Oslo plutôt que ses accomplissements. L'avènement d'un monde sans armes nucléaires reste encore un vœu pieux, avec quelques avancées en la matière, comme le vote de la résolution en septembre, appelant les puissances nucléaires à démanteler leurs arsenaux.
Nous ne pouvons pas tolérer un monde dans lequel de nouveaux États acquièrent des armes nucléaires, dans lequel la terreur d'un holocauste nucléaire met en danger nos citoyens. C'est pour cela que nous allons prendre des mesures pour un monde sans armes nucléaires.
Le comité du prix Nobel a aussi salué le rôle d'Obama dans la lutte contre le réchauffement climatique après des années de relative inertie du président Bush. Mais les États-Unis pourraient bien être le principal obstacle à un traité remplaçant le protocole de Kyoto. Ironie du sort, le prix Nobel lui sera remis le 10 décembre à Oslo, une date qui coïncide avec la conférence internationale sur le climat à Copenhague.
Alors, Richard Glenn, vous pensez que on a donné le prix Nobel de la paix à Barack Obama parce que déjà, est-ce que lui, par exemple, le discours qu'on l'entend prononcer là, il a été influencé par les extraterrestres?
Définitivement, Bob, et mieux que ça, Barack Obama rétablit l'alliance avec des êtres bienveillants pour l'humanité. À l'époque, en 1950, 51, 52, après la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis, on avait eu des délégations extraterrestres qui étaient venues pour essayer de créer une alliance avec les peuples de l'espace pour le désarmement d'abord nucléaire de la planète Terre et en plus nous aider sur les plans sociaux, économiques, religieux même, spirituels. Et à l'époque, on avait encore la crainte, la guerre froide débutait avec la Russie, et on a élu aux États-Unis un général 5 étoiles. Imaginez, on élut président des États-Unis un gars d'armée, là, le général Eisenhower. Et qu'est-ce qu'on venait faire avec Eisenhower comme président des États-Unis si ce n'est pas pour se préparer à la guerre, encore une fois, et au lieu d'être sur une piste pacifique? Ça, on l'a retrouvé à l'époque de John F. Kennedy, après Eisenhower, qui avait fait des déclarations incroyables à la fin de sa carrière comme président, et alors qu'il était encore président, il disait il faut faire attention à la menace qui existe dans notre propre pays de la structure militaro-industrielle et pharmaceutique qu'on pourrait rajouter. Et Kennedy avait rencontré un émissaire, encore une fois, des extraterrestres bienveillants, et il avait organisé ce qu'on appelait le Iron Mountain, la montagne d'acier, qui était un abri nucléaire considérable sous des montagnes ici, tout près du Québec, où je demeure, pour qu'il y ait une rencontre avec l'extraterrestre, qui était un envoyé, avec des autorités américaines. Et ça avait tombé à l'eau. Vous savez l'histoire de Kennedy qui est disparu subitement, remplacé par Johnson, Lyndon B. Johnson, qui lui a réouvert les budgets pour qu'on accentue la guerre au Vietnam. Alors, on voit très bien qu'on a affaire à un monde entre la paix d'un côté et la guerre de l'autre. Et le Iron Mountain Report nous dit « La guerre est un mal nécessaire, la paix est indésirable. » Et on a vécu depuis avec cette mentalité. On est en 2009, à Copenhague, en face d'un fait. Il faut changer d'attitude planétairement, et c'est un ultimatum qui a été servi dans une salle privée. Une convocation qui a été faite individu par individu, une vingtaine de personnes ont été conduites dans une salle adjacente à l'Assemblée générale.
Mais ce qui est intéressant, Richard, je vous coupe, mais il y a un truc qui est intéressant, c'est que visiblement à ce sommet de Copenhague, les dirigeants ont donné leur accord et ont déclaré leur venue, mais ils ont mis beaucoup de temps à accepter cela.
Exactement, Bob. Alors oui, on était prêt à ouvrir et on se disait bon, ben ils viennent pas. Celui qui est le chef, on pourrait dire, de la plus grande puissance du monde, c'est Barack Obama. Ouais. Il vient confirmer à une semaine de l'ouverture de Copenhague qu'il va être là présent en personne. Et tout de suite après, commençaient à se confirmer tous les autres. Mmh. Alors, en Russie, c'était Medvedev, qui était à l'époque le chef de la Russie. Ouais. Sarkozy, chez vous, en France.
Ouais.
Et tous les autres, là, oui, comme des petits chiens de poche, arrivaient tous à la queue leu-leu en disant « Oui, on va être là. Oui, on va être là. »
D'accord.
En personne. Alors, on sent qu'il y avait eu une pression incroyable pour que ces autorités se déplacent.
Alors, Richard, on va continuer à parler de tout cela. Je suis obligé juste de signaler à tous ceux qui viennent d'arriver qu'on évoque ce soir, finalement, la divulgation extraterrestre. Visiblement, à partir de ce sommet de 2009 à Copenhague, on a la certitude, Dixit Richard Glenn, que les extraterrestres nous ont sommé de dénucléariser la planète et de désarmer, justement, toutes les grandes nations.
Si on vous demande ce que vous écoutez le soir entre 21h et minuit, répondez Ado. Et Bob vous dit toute la vérité.
Du 7 au 18 décembre 2009, 192 pays, 120 chefs d'État présents à ce sommet de Copenhague, avec des manifestations de plus de 500 ONG à l'extérieur, 50 000 manifestants indignés, et les chefs d'État décident finalement de faire avancer les choses. Visiblement, lors de ce sommet à Copenhague, 20 personnes, 20 dirigeants sont convoqués. C'est ça, une vingtaine de personnalités dirigeantes.
Ce ne sont pas nécessairement les 20 dirigeants que nous avons élus démocratiquement, je dirais, comme le chef de France ou le chef des États-Unis en personne. Quoi qu'il y a eu de ces dirigeants qui ont été amenés dans une salle adjacente à l'Assemblée générale.
Ouais.
Et ils ont été conduits là par des hôtesses.
Ouais.
Qui les ont amenés à la main, là. Suivez-moi, monsieur, vous êtes convoqué.
Ouais.
Ils se levaient de la grande assemblée, puis ils se rendaient directement dans ce local.
Mm-hmm.
C'était une grande table ovale. Il y avait à peu près une douzaine de personnes de chaque côté de la table. Ils avaient droit d'être accompagnés d'un conseiller ou une conseillère avec eux.
D'accord.
Et la scène a débuté par vers 10h le matin, vers l'entrée au bout de la table d'une belle femme.
Ouais.
Disons-le entre nous, là, c'est une extraterrestre qui se présente et elle se met à parler.
Ah bon?
Elle parle dans une langue que tous les gens autour de la table se regardaient en voulant dire qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle parle. Il y en a qui ont pensé qu'elle parlait le danois, vu qu'ils étaient au Danemark. Ah, il y avait des écouteurs sur la table. Alors là, ils mettaient les écouteurs dans l'oreille et ils entendaient dans leur langue propre, évidemment, ce qu'elle disait. Et elle ne parlait ni danois, ni anglais, ni français, ni russe, ni rien. Elle parlait une langue extraterrestre. Et la traduction était faite pour chacun des représentants dans la langue de son pays, de sa connaissance. Et elle a dit, maintenant, fermez vos yeux. Oh, c'est drôle. Il n'y avait pas de petit papier sur la table pour dire le nom des personnes qui étaient là.
Ouais, ouais.
C'était des humains en autorité, des chefs d'entreprise, des chefs de pays. Il y en avait quelques-uns. Je nommerai pas les noms parce que je veux éviter qu'on fasse une discrimination en disant « Ah, lui est aimé, lui est pas aimé ». Non, non. C'était toutes des autorités en pouvoir réel sur la société humaine actuelle.
Ouais.
Fermez vos yeux. Alors, il y en a qui fermaient les yeux, il y en a qui ne fermaient pas, il y en a qui se demandaient pourquoi. Et il n'y avait personne dans la salle à part une vingtaine de chefs,
ouais,
derrière, avec accompagnés de secrétaires ou de conseillers, et elle au bout de la table. C'est tout. Fermez vos yeux. Et quand ils fermaient leurs yeux, oh, ils apercevaient dans leur tête des images de ce qui était, on va le dire, l'histoire de l'humanité, depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui. Et ça déboulait dans leur tête comme un film. Mais pire qu'un film, c'est, on appelle ça un psychodrame. C'est que les gens sont impliqués dans le film. S'ils regardent à gauche ou ils regardent à droite, ils voient la scène se dérouler comme s'ils étaient présents dans ce qu'ils voient, dans ce qu'on leur projette dans leur écran mental. Et quand ils ouvraient les yeux, bien évidemment, ils voyaient la salle où ils étaient. Il fallait qu'ils ferment les yeux. Ils ouvraient, ils fermaient, ils ouvraient. Alors, c'était étonnant de voir le phénomène se produire. Déjà, pour eux, c'était étrange. Deuxième étape, un peu plus tard. Ça, c'était de 10h à peu près 10h30.
D'accord.
Mais dans leur conscience, il s'est passé comme 3 heures de projection.
Mm-hmm.
Ça, on pourra en reparler un autre jour. Mm-hmm. Mais le temps n'est pas le même au niveau de la conscience. Quand on a un accident d'automobile, on se rend compte qu'on voit toutes les choses passer comme au ralenti, alors qu'en réalité, ça s'est passé en 2 secondes, 3 secondes.
Mais dites-moi, Richard, je vous coupe parce que j'imagine que là, je pense à tous les détracteurs de cette théorie et de ce sommet, en tout cas de ce qui en découlait, de ce que vous en faites. Ils vont se dire, mais quelle preuve à Richard Glenn de tout cela?
On continue, Bob, je répondrai à la toute fin.
D'accord.
À la toute fin de notre émission.
OK.
Alors, deuxième étape, Après une pause où ils ont eu le temps de se délasser un peu, et ça faisait qu'une demi-heure, ils sont revenus s'asseoir, et on leur a présenté. Alors là, il est arrivé deux autres personnages au bout de la table. Alors, il y avait deux hommes et cette femme-là, qui est toujours des beaux personnages, des cheveux blonds, des yeux bleus, un grand personnage, des Nordiques, comme on en trouve au Danemark, en Suède. Et là, encore une fois, fermez vos yeux, et on leur projette dans leur écran mental la suite des choses. C'est-à-dire, à partir de maintenant que vous avez vu l'histoire du monde jusqu'à aujourd'hui, maintenant, deuxième étape, vous allez voir ce qui s'en vient dans le futur. Fermez vos yeux. Il y en a qui voudraient fermer leurs yeux. À un moment donné, il y en a un qui met la main et il fait comme un signe, comme un hypnotiseur, comme vous voulez. Et pouf, tout le monde avait les yeux fermés, incapable de les rouvrir. Ils voient le futur de l'humanité dans leur écran mental.
Ah oui.
Et chacun voit ce qui lui concerne. C'est-à-dire, s'il vit en Chine, il voit ce qui se passe en Chine. S'il est aux États-Unis, il voit ce qui se passe dans le futur aux États-Unis. S'il est en France, il voit ce qui se passe dans le futur en France. On écoute Jimmy Gueux, qui va nous expliquer pourquoi on procède de cette façon-là avec le phénomène extraterrestre.
Ces êtres s'efforcent de nous faire comprendre qu'il est indispensable que nous modifions nos structures mentales, nos attitudes. C'est un peu comme notre société a toujours vécu avec le verbe « avoir ». Je crois qu'il faut passer au stade de l'être. C'est donc une prise de conscience nouvelle qui doit s'élever au niveau cosmique. Au niveau de la pensée cosmique, c'est toute une philosophie nouvelle qui doit s'intégrer dans notre société et qui doit nous faire faire un bond en avant pour nous rapprocher un peu de ces extraterrestres qui, eux, sont infiniment plus vieux que nous dans leur civilisation, qui ont des modes, des moyens techniques que nous n'avons pas, ou du moins pas encore. Et afin de pouvoir les rejoindre, nous devons nous hausser de quelques degrés.
Le regretté Jimmy Gueux, bien sûr, que tous les gens qui sont branchés OVNI et qui s'intéressent à ce sujet connaissent par cœur. Jimmy Gueux qui, voilà, disait un petit peu ce que vous dites, hein, Richard, il faut élever nos consciences.
Eh oui, et là est arrivée l'heure du dîner, il y a des gens qui pleuraient, voyant les événements du futur terribles, catastrophiques, apocalyptiques. Ce sont, oubliez pas, des autorités qui ont le potentiel de donner des ordres et de faire changer les choses sur la planète. Ils s'en vont pour dîner. Et au retour du dîner, ils reviennent en se demandant qu'est-ce qui les attend dans l'après-midi. Et ça dure encore très peu de temps, mais en réalité, dans leur conscience, ça va prendre des heures à digérer ce qu'ils vont entendre et voir encore dans leur écran mental. C'est l'agenda personnalisé pour, à partir d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, vous êtes les autorités. On vous montre ce que vous devrez faire en sortant d'ici pendant les jours, les semaines, les mois, les années qui viennent. On vous donne 2 ans. On vous donne 2 ans pour changer la situation du monde. Voici votre agenda personnalisé. Alors, le Russe recevait dans sa tête, en voyant très clairement, et comme je vous disais, en psychodrame, il est dans l'action, il voit les choses, il a même l'impression qu'il peut parler devant des personnages qu'il voit. Il voit qui il doit rencontrer. Il voit Obama, si Obama, je veux pas nommer de nom, mais je peux vous le dire quand même, vous confirmer qu'Obama lui-même était en personne dans cette réunion. Il voit qui il doit réunir dans le salon ovale la semaine prochaine en revenant aux États-Unis ou dans 2 semaines, dans 3 semaines, le temps de les convoquer. Ce sont les gens que vous devrez contacter.
D'accord.
Ce sont des gens que nous connaissons et qui pourront vous aider à réaliser l'agenda qu'on vous propose. On vous l'impose pas, mais on vous dit que si vous le suivez, vous allez changer la face du monde pour le mieux. Au lieu de considérer encore que la guerre est un mal nécessaire et la paix est indésirable, vous comprenez que vous allez passer d'un état de guerre à un état pacifique sur Terre et on est là pour vous aider. Alors on écoute Bernard de Montréal qui nous parle du choc.
Les extraterrestres n'ont pas le droit d'interférer dans l'évolution d'une race. Ils peuvent entrer en contact ici et là, mais ils ne peuvent pas bouleverser toute une civilisation. Ils n'ont pas le droit. Ça fait partie des lois de leur monde. Mais si l'homme en arrive à un point où il peut se détruire, à ce moment-là, ils auront le feu vert et ils entreront en contact avec l'humanité et ils passeront des plans invisibles au plan matériel, se matérialiseront, seront visibles à l'homme. Et c'est à ce moment-là que se fera le choc culturel et c'est à ce moment-là que la civilisation humaine sera totalement anéantie. Elle sera anéantie sur le plan psychologique, la science sera totalement détruite et il y aura la reconstruction d'une nouvelle civilisation et d'un nouvel ère, mais sur des bases et à l'intérieur de conditions psychiques, vibratoires et psychologique que nous ne pouvons même pas aujourd'hui nous imaginer. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le pouvoir de notre imagination créative. Nous ne pouvons pas voir dans l'invisible. Nous ne pouvons pas sortir de notre corps. Nous n'avons pas le pouvoir de nous servir de notre corps éthérique. Alors, nous sommes totalement incapables de même projeter d'une façon réelle ce que l'homme pourra, après ce contact, après ce choc mondial, ce choc culturel, faire au niveau de son évolution.
Alors, Bernard de Montréal, on rappelle pour ceux qui n'étaient pas là lorsqu'on en avait parlé, hein, Richard Glenn, c'est que lui a été contacté.
Oui, il a œuvré longtemps jusqu'à son décès en 2003 ici en Amérique, autant aux États-Unis qu'au Canada, avec des autorités justement, des vraies autorités qui ne sont pas élues seulement pour 4 ans.
Ils
sont capables d'agir parce que soit qu'ils sont des hauts fonctionnaires ou des autorités scientifiques dans des domaines de laboratoire et tout. Alors, on passe bientôt à l'étape de la sommation avant que ces chefs, qui sont parfois des chefs d'État, parfois des chefs d'entreprise, quittent cette salle à Copenhague dans l'après-midi. Je ne donne pas la date, c'était sur les derniers jours de la réunion de Copenhague. Il y aura la sommation faite par les extraterrestres à ces chefs du monde des humains pour qu'ils améliorent le destin de l'humanité.
D'accord. Est-ce qu'on a un extrait de cela, Richard?
On fait une pause, vous me dites?
Oui, bien sûr, on fait une pause. On rappelle tout simplement à tous ceux qui viennent d'arriver que nous parlons ce soir de la rencontre en fait de 20 dirigeants de pays au sommet de Copenhague avec les extraterrestres et finalement de l'agenda proposé par les extraterrestres à chacun de ces dirigeants.
L'univers mesure 46 milliards d'années-lumière. Croyez-vous vraiment que nous soyons seuls? Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado.
Émission incroyable ce soir avec Richard Glenn, l'ésotériste de Nouveau Monde, animateur, concepteur, producteur de l'émission Ésotérisme expérimental. Richard, donc on revient finalement à ce sommet de Copenhague de 2009 qui, pour vous, met en évidence une rencontre des chefs d'État, de certains chefs d'État, avec des extraterrestres.
Ben, Bob, à un moment donné, un jour ou l'autre, il faut arrêter de parler du phénomène OVNI, du phénomène soucoupe volante, chercher les traces, les témoins qui nous racontent une chose, et on dit oui, on est sûr, on est convaincu que la réalité extraterrestre maintenant fait partie de notre monde.
Ouais.
Il faudrait qu'on soit capable d'arriver à dire oui, mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font simplement se promener puis nous regarder puis se promener puis se cacher quand on essaie de les filmer ou... Alors, non, voici un événement portée mondiale. Dans l'actualité, on a les preuves collatérales. Vous verrez jusqu'à la fin de notre émission très spéciale que j'ai comparée un peu à l'émission de Orson Welles au début.
Ouais.
Vous vous souvenez?
Ouais.
Alors, on continue sur le scénario, vous êtes d'accord?
Bien sûr.
Alors, allons-y. Alors maintenant, on arrive au moment de la sommation. La sommation, qu'est-ce que c'est une sommation d'après vous, Bob?
Ah ben, c'est on n'a pas le choix. Vous voyez ce que je veux dire? On vous somme, on vous met à l'index, on vous dit, voilà, il faut absolument que vous fassiez ça. On est d'accord?
C'est ça. Une mise en demeure.
Exactement.
Avant le recours à la force.
Ouais.
Ça, c'est la définition du dictionnaire. En passant, vous avez fait une émission sur les égrégores, et vous savez que le mot égrégore n'est pas dans le dictionnaire français.
Ah, je ne savais pas.
Parce qu'on veut éliminer, on veut occulter certains phénomènes qui ont du pouvoir. Et vous avez créé un égrégore pour le pouvoir de développer une audience solide avec Bob vous dit toute la vérité.
Oui, c'est ça.
Ben oui. Mais alors, vous voyez, il y a des choses qu'on nous occulte et ça passe sous le nez de tout le monde et personne ne s'en rend compte.
Ouais.
Le mot n'est pas dans le dictionnaire français.
Ouais.
Bon. Alors, la sommation, donc, a eu lieu sur la fin de cette rencontre spéciale. À ce petit groupe select d'autorités représentant différentes sphères de l'humanité,
ouais.
Militaires, médicales, politiques, économiques, religieuses, religieuses. Ils étaient tous là, ils étaient tous... bouleversé intérieurement, un grand choc, mais comme ce sont des autorités, ce sont des gens qui sont habitués de voir des choses extrêmes. Ils ont accès à des dossiers très privés. Et oui, alors on leur dit maintenant, messieurs, vous avez l'agenda, vous savez ce que vous avez à faire, on est là pour vous aider. On est là, toujours présent, à tout instant, de ce que vous pensez, de ce que vous dites, de ce que vous faites, et on va vous aider. Et des gens vont dire, ah, c'est des hasards qui sont arrivés. Avec un grand sourire en voulant dire « Vous verrez bien les hasards qui vont se produire pour vous aider ». En passant, là, les gens qui avaient les écouteurs pour entendre les bonhommes et la dame parler en extraterrestre, quand c'était les hommes qui parlaient, ils entendaient un traducteur ou une voix, en tout cas, dans une voix mâle, et quand c'était la femme qui parlait au bout de la table, ils entendaient une voix femelle. Mmh. Alors, c'était vraiment là, très, très bien organisé. Mmh. Et là, bon, ben, alors, on les laisse s'en aller dans l'Assemblée générale. Mmh. Et maintenant, écoutez le discours que Obama a fait, qui a été rapporté par les médias, lors de la... avant qu'on signe l'entente finale de Copenhague. Écoutez le discours de Barack Obama, qui avait assisté à ces rencontres. Voici son discours.
Le temps des discussions est terminé. Voilà où nous en sommes. Nous pouvons adopter cet accord, faire un pas significatif en avant et continuer ensuite à l'améliorer et construire sur cette base. Nous pouvons le faire, et tous ceux qui sont présents dans cette salle prendront part à une aventure historique pour assurer une vie meilleure à nos enfants et nos petits-enfants, ou alors nous repoussons une fois de plus. L'Amérique a fait son choix. Nous avons tracé notre chemin, nous avons pris des engagements, et nous ferons ce que nous avons promis. Maintenant, je crois qu'il est temps pour les nations et les peuples de se rassembler derrière un objectif commun. Nous sommes prêts à le faire aujourd'hui, mais il faut que tout le monde bouge et reconnaisse qu'il est mieux d'agir que de parler.
Voilà, Barack Obama, donc lors de ce sommet à Copenhague, on voit bien qu'il a une vraie volonté, hein, Barack Obama, de faire avancer le Schmilblick, comme disait Coluche, que vous avez certainement connu, Richard.
Oui, oui. Et voyez-vous, sa détermination est de laisser bien comprendre aux gens qui étaient réunis et qui devaient signer l'accord de Copenhague que c'était de portée mondiale, pour ne pas dire de portée planétaire, en rapport avec les interplanétaires. Et Bob, croyez-vous que le sort du monde a vraiment changé depuis Copenhague?
Ben non. Moi, j'ai pas la sensation, parce que le problème, c'est que là, on voit bien que Obama prix Nobel de la paix, on voit bien que Sarkozy monte à la tribune et dit des choses qui sont très intéressantes. Déjà, il faut faire évoluer le monde, etc. Obama enclenche le pas, il dit la même chose. Mais moi, depuis 2009, j'ai pas la sensation que ça aille mieux. Hein, au contraire, je vois toujours autant de conflits ici ou là. Je vois autant de pression de la part de la Corée du Nord. Je vois tout ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est ça. D'ailleurs, les extraterrestres, dans la sommation, ils avaient terminé en disant, on vous donne deux ans. On est en décembre 2009 à Copenhague. Deux ans, ça voulait dire toute l'année 2010, toute l'année 2011, pour prouver votre bonne volonté, votre bonne foi et surtout vos capacités à aider à changer les choses. On vous donne un agenda pour vous dire presque jour par jour comment agir pour changer les choses. On va vous aider, on va créer des hasards, des choses qui vont vous aider. Et voyez-vous, deux ans après, donc fin 2012, donc le constat est clair, ils n'ont pas réussi.
Et alors, est-ce qu'ils n'ont pas réussi? Et est-ce que là, pour le coup, vous pensez que ces extraterrestres qui sont venus ce jour-là au sommet de Copenhague en 2009, leur en tiennent rigueur? Et qu'est-ce qui se passe avec eux?
Ben, depuis 2013, depuis le début de 2013, alors durant ces deux années, on va voir ce qui s'est passé comme événement pour les aider ou peut-être leur nuire, mais on verra.
Ouais.
Après ça, on va parler à partir de 2013, des choses qui se sont produites aussi, puisqu'on est dans l'année 2013, au début de l'année 2013.
Ouais.
Alors, si on fait une pause, après, on va parler de ces deux ans d'examen où on leur donnait l'occasion d'utiliser l'agenda qu'on leur avait proposé en leur fournissant les moyens, l'aide, le support et les conseils pour qu'ils réussissent. Ils n'ont pas réussi, mais qu'est-ce qui s'est passé durant les deux années 2010 et 2011?
Ben, il y a eu une tonne de catastrophes. Hein?
Ben oui. Alors, on se parle de ça après la pause.
Voilà. On marque une petite pause. On se retrouve dans quelques instants. C'est bien parce que vous connaissez l'émission par cœur, Richard. C'est fantastique. Je vais pouvoir lire pendant
Mathieu,
les vacances.
Mathieu m'a bien instruit.
Je vais pouvoir vous laisser les clés de la maison pendant les vacances. Restez donc avec nous, Richard Glenn. Ce soir, on parle, de cette rencontre extraterrestre avec les grands dirigeants de ce monde. C'était au sommet de Copenhague 2009.
Georges Lucas nous a offert la guerre des étoiles.
Ado vous offre Bob vous dit toute la vérité.
Reste à savoir qui est Chewbacca.
Alors, la pause est courte, hein, voyez, Richard, on revient tout de suite vers vous.
Un examen, ça consiste en quoi, d'après vous, Bob?
À montrer quel niveau d'érudition nous avons, pour savoir où on peut se situer.
Oui, ça c'est sur le plan des examens intellectuels, mais oui. Dans des examens qui sont plus concrets, matériels, c'est de trouver des solutions à des épreuves.
D'accord.
À des problèmes posés. On propose un problème, il faut trouver une solution au problème.
Ah, mais c'est sûr.
Alors
c'est
vous
ça.
Me disiez, oui, il y a eu plein de catastrophes dans les années 2010, 2011, 2012. Oui, oui, effectivement. Et c'était des problèmes auxquels les autorités devaient réagir. Première chose qui s'est produite, c'est qu'en janvier 2010, donc à quelques semaines de la sortie de Copenhague, il est tombé à Washington la pire tempête de neige du siècle.
C'est vrai.
Et ils ont été prisonniers, et Obama et d'autres ont eu le temps à loisir de parler et de discuter de ce qui était l'agenda. L'agenda proposé par les extraterrestres, parce que c'est le seul dont je vous ai parlé qui était chef d'État à l'époque et qui était présent dans la salle. Mm. Il y en a eu d'autres chefs d'État aussi, mais la plupart des autres qui étaient autour de la table n'étaient pas des chefs d'État. Il y avait le Russe, on va le nommer, là, Medvedev, et il y avait Obama.
Ouais.
Tous les autres, là, incluant Sarkozy, ils n'étaient pas présents dans cette salle-là.
Mm.
Bon, alors il est arrivé aussi la catastrophe de BP.
Ouais,
le 20 avril 2010, dans le golfe du Mexique, la plus grosse catastrophe écologique qu'ait connue les États-Unis.
Mm-hmm.
Ensuite, tout le monde se souviendra, en 2011, le 11 mars, Fukushima.
Mais si, oui.
Alors, on voit là qu'il y a eu des catastrophes majeures, exceptionnelles, de façon à ce que les dirigeants, et surtout que l'opinion publique, réalise que la catastrophe de Fukushima réveille la conscience de tout le monde en disant « Hey, c'est stupide d'utiliser l'énergie nucléaire. On ferme ça, les centrales nucléaires. On va dénucléariser la planète Terre sur le plan atomique et sur le plan armement. Le golfe du Mexique, c'est que la conscience du peuple se réveille en disant « Il y a d'autres énergies que l'énergie fossile du pétrole qui pollue.
Mm-hmm. »
Ça prenait les épreuves les problèmes pour qu'à l'examen, les autorités prouvent qu'ils sont vraiment des autorités capables de faire changer les choses. Et ils avaient, à ce moment-là, un mouvement populaire.
En fait, ils avaient la possibilité de faire évoluer notre planète, sauf que ça n'a pas été fait. Et est-ce que vous pensez que toutes ces catastrophes, tous ces changements et bouleversements climatiques ont été induits par les extraterrestres?
Je ne crois pas, Bob. Je ne crois pas. Je crois que ce sont des événements qui, de toute façon, se seraient produits naturellement par des humains, par l'inconscience, par la stupidité. On installe une centrale nucléaire au Japon, là où il y a des tremblements de terre fréquents, au bord de l'océan, de façon à ce que dès qu'il y a un tremblement de terre dans l'océan, ça provoque un raz de marée assez gigantesque qui vient inonder la centrale nucléaire et qui se noie et qui, à partir de là, perd le contrôle. Et c'est devenu Fukushima, puis on nous cache beaucoup de choses sur ce qui se passe à Fukushima. Le directeur de Fukushima de l'époque est mort du cancer il y a quelques semaines à peine. En avez-vous entendu parler? On cache toutes les choses là-dessus. Vous l'avez mis même, je pense, sur votre site, les mutations des végétaux, des animaux qui sont faits maintenant au Japon. Là.
Ah oui, c'est dramatique. Hein, c'est juste...
Oui, c'est dramatique. Savez-vous que chez moi, là, devant moi, là, devant moi, devant ma fenêtre, là, j'ai un détecteur de radioactivité qui est en permanence.
Ah bon?
Parce que, oui, on est à l'hémisphère nord de la planète et tout l'hémisphère nord de la planète subit les déplacements des nuages à haute atmosphère qui peuvent amener la radioactivité un peu partout dans le monde, sur l'hémisphère nord de la planète en particulier.
D'accord.
Au cours de ces années-là, il est arrivé des anomalies très étranges. Vous avez entendu parler des sinkholes?
Bien sûr, c'est les trous béants, c'est ça?
Oui, exactement, qui apparaissent un peu partout dans le monde. Là, c'est pas juste aux États-Unis. Là,
On a posté, tiens, il y a quelques jours, sur la page Facebook et sur le site bob-toutelavérité.fr, une photo d'une voiture complètement engloutie, aspirée par un trou, un truc incroyable. Et il y en a de plus en plus de ça aussi. Hein.
Ben voilà. Ensuite, il y a eu des morts massives d'animaux, là, vous le savez, là, des oiseaux, des dauphins, mais... De manière incroyable, hein, des règlements total. Là. Et pourquoi des mortalités subites comme ça d'animaux à travers le monde, à des endroits différents? Il y avait des bruits étranges. Est-ce qu'on peut entendre les fameux bruits, on dirait des trompettes, comme des trompettes célestes qui sont entendues un peu partout dans le monde. On peut les faire entendre pendant qu'on se parle, Bob.
Richard, vos désirs sont des ordres. Pendant qu'on se parle, on va les mettre. Écoutez.
Alors, on entend des oiseaux, des enfants, mais on va entendre le bruit des trompettes. Ben, je dis des trompettes, c'est la manière dont certains ont interprété la...
Alors ça, oui, j'avais passé les extraits il y a quelques mois justement, parce que dans les Pyrénées, par exemple, en France, on avait capté des bruits comme ça. Un petit peu partout dans le monde, on ne sait pas ce que c'est. Hein.
Et c'est effrayant. Vous êtes dehors, dans la nature. Il n'y a pas aucune usine, aucune raison d'entendre des bruits aussi horribles, on dirait, je sais pas moi.
C'est comme s'il y avait un peu une complainte, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, vous savez, un champ de baleine, mais qui souffrirait, quoi.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Alors, ces phénomènes étranges, aucun scientifique est capable d'apporter d'explication. Pourtant, c'est très concret, là. C'est très vérifiable. Hein?
Ouais.
Alors, il y a eu donc, pendant ces années-là, des faits étranges. Et vous savez que le 10 décembre, le jour où Obama recevait le prix Nobel de la main même du chef, il y avait dans le ciel de Norvège une spirale qui est apparue dans la nuit. Et ces fameuses spirales qui apparaissent étrangement un peu partout dans le monde, autant en Russie, en Chine, au Canada, sont inexplicables, encore une fois. Malgré tout, au téléjournal, vous allez entendre le commentateur du téléjournal qui, lui, trouve la solution très facilement, alors que, scientifiquement, on ne sait pas qu'est-ce qui a provoqué ces fameuses spirales. Écoutez, au téléjournal.
Et avant de se quitter, regardez ces images, elles nous viennent de Norvège. Cet objet volant lumineux a traversé le ciel norvégien mercredi pendant plusieurs minutes. Les habitants ont tout de suite cru à la présence d'extraterrestres. Et la vérité est beaucoup plus simple, il s'agissait en réalité du tir raté d'un missile russe.
Bien sûr. Alors, c'est toujours comme ça, on trouve toujours une explication à tout. Ouais. On va mettre la photo de cette spirale sur le Facebook, parce que c'est assez incroyable. Je viens de la prendre là sous les yeux, elle va apparaître. On peut pas. Enfin, à un moment donné, quand même, Richard, on a la sensation qu'on nous prend un peu pour des cons. Hein.
Bah, tout le temps, hein. C'est le plus bas dénominateur commun. Habituellement, les médias s'adressent au plus bas dénominateur commun. Ça prend des gens comme vous qui avez du courage de lancer la conscience des humains sur des pistes tout à fait nouvelles, étranges. Et j'apporte aujourd'hui avec vous, là, votre complicité et votre accord, l'aspect totalement inédit de l'activité du phénomène extraterrestre sur Terre dans la société et à laquelle je vous rends témoin et bientôt acteur, vous allez voir. Parce que c'est la première rencontre de trois où on va avancer dans ce dossier du phénomène extraterrestre, pas seulement sous l'angle ufologique, mais sous l'angle où ces êtres, on va se placer un peu en relation avec ces êtres qui vivent des choses, qui nous font vivre des choses et qu'on doit comprendre et qu'on doit décoder. Vous savez, les moines tibétains, le 23 avril 2009, avaient fait une déclaration qui a été répétée partout dans le monde.
Ouais.
Les moines tibétains disaient « Les extraterrestres veulent sauver la Terre de l'autodestruction. »
Ah oui.
Et je vous ai remis un lien qui va vous permettre de mettre l'article et les articles qui ont paru à cette époque-là. Nous, ici au Canada, on avait Paul Hélieux, l'ancien ministre de la Défense nationale du Canada. Vous savez, on est juste à côté des Américains. Là.
Ouais.
Et tous, c'est nous autres qui recevons le paquet. Bon, il a déclaré « Les ovnis sont aussi réels que les avions qui volent au-dessus de nos têtes.
Ouais, » ouais.
Les États-Unis risquent de nous engager dans une confrontation avec des puissances extraterrestres sans notre consentement. Vous savez, les Américains veulent développer ce qu'on appelle le bouclier spatial, le Star War.
C'est pas
pour se protéger des Russes, c'est pour empêcher des extraterrestres dont eux n'ont pas créé d'alliance avec eux au début. En 1952, on a voulu plutôt faire affaire avec ce qu'on appelait des petits gris, des intraterrestres, au lieu de s'associer à des extraterrestres bienveillants.
Mmh.
Alors, il y a eu les pleurs du représentant des Philippines qui, dans une rencontre à Doha, a commencé à parler dans une assemblée publique et il s'est mis à pleurer en parlant de la situation du monde, que c'était catastrophique, c'était urgent, qu'on arrête de faire des palabres, de la procrastination, qu'on dise les vraies choses et qu'on passe à l'action. Medvedev, ça vous dit quelque chose, Medvedev?
Bien sûr. Ah ben oui, bien sûr. Oui.
Bon, ben il était, lui, à cette salle avec la rencontre avec les extraterrestres. Regardez, Medvedev, vous avez vous-même repris, je l'ai pris sur le site de Bob.
Ouais.
On entend ce que Medvedev a dit par rapport à ça.
Je vais vous le dire une bonne fois pour toutes. Avec le président, nous avons apporté dans la valise nucléaire un dossier top secret. Il est entièrement consacré aux extraterrestres qui ont visité notre planète. Le rapport nous a été fourni par le service spécial qui gère le contrôle des extraterrestres dans le pays. Combien d'entre eux sont parmi nous, je ne peux pas vous le dire car un vent de panique va se propager.
Alors ça, c'était quand même assez dingue quand même, parce que là, il le dit en off, hein, c'est-à-dire que Medvedev, il n'est pas censé être visiblement filmé, mais il est quand même il le dit à la cool, et puis il dit voilà, tous les chefs de mon pays, tous les dirigeants de ce pays ont reçu cette mallette avec un dossier complet. Hein.
Et la présence des extraterrestres parmi nous, ouais. Et ça pourrait faire paniquer la population. Ouais. Vous savez que Medvedev, le 24 janvier 2013, a même ajouté: nous sommons les Américains de donner de l'information sur le phénomène extraterrestre à l'humanité. Tout ouais. ce qu'ils détiennent comme information doivent être révélés. Ouais. S'ils ne le font pas, nous, les Russes, nous allons le faire en premier.
Bien sûr.
C'est vous rendre compte à quel point on est sur le bord de quelque chose d'important qui va se produire et qui met en cause le phénomène extraterrestre.
Mm. Mais là, quand on entend tout ça, on se dit que moi, ce qui me dérange, en tout cas, c'est que si tout ça est véridique, on peut imaginer, parce que je vous dis, on parlera bien sûr des questions des détracteurs tout à l'heure, mais on se dit que finalement, on est vraiment des abrutis, parce que visiblement, on a été sommé de faire quelque chose, on a été averti de faire quelque chose, on nous a mis sur un chemin en disant attention, voilà ce qui va se passer, voilà ce que vous avez fait, regardez votre passé, voilà votre avenir. Et mine de rien, depuis 2009, on n'a pas vu beaucoup de changements, Richard Glenn.
Ben non, c'est sûr. Alors les deux ans se sont écoulés. Nos chefs politiques, nos chefs militaires, nos chefs d'industrie, nos chefs religieux n'ont pas pris la leçon, n'ont pas agi. Peut-être qu'eux ont essayé à leur corps défendant, n'ont pas réussi parce qu'il y a eu des menaces, vous savez. Hein.
Ouais.
Vous avez une femme et des enfants, c'est facile de dire, ben, vous faites ça, si vous le faites pas, ce serait dommage que votre enfant, en revenant de l'école, ait un accident.
Hein. Bien sûr. Richard Glenn avec moi ce soir jusqu'à minuit. On parle de cette rencontre incroyable au sommet de Copenhague en 2009 entre les extraterrestres et les grands de ce monde.
Bob vous dit toute la vérité sur Rado 97.8 à Paris, 93.1 à Toulouse et sur radofm.fr.
Vous savez, Richard, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui en France, je sais pas comment ça se passe du côté du Québec, mais nous, on a de plus en plus de publicité qui met en scène des extraterrestres, que ce soit pour vendre des pâtes, que ce soit pour vendre de la viande, pour que ce soit pour vendre de l'argent. Oui, parce qu'on achète l'argent. Hein. Ouais. Ne croyez pas qu'on vous donne de l'argent gratuitement. Hein. Ça coûte très très cher. Et on met souvent des extraterrestres. De plus en plus, ça me permet de vous emmener sur cette publicité qui a été diffusée à la BBC, je crois.
Oui. La fameuse publicité où il y avait, et ça c'est une publicité qui est parue au début des années 2010, avec une femme extraterrestre blanche diaphane qui apparaissait devant Obama, avec Obama au début, puis après ça on la voit dans des scènes de guerre où elle arrête les chars d'assaut, où elle arrête la destruction des avec un espèce de gros tracteur. Je pense que vous pourriez mettre cette publicité-là sur votre site, parce que ça fait l'éloge finalement de l'Internet, en disant que nous sommes avec vous ici sur Terre pour vous aider à changer le monde, nous sommes avec Internet.
Alors le problème, c'est que visiblement, on a cherché la publicité, elle n'est plus sur le net. Donc si vous avez un lien, Richard...
Ben, attendez, Bob, je vous l'ai remis sur la dernière page.
D'accord.
Du document que je vous ai envoyé. Il est marqué, attendez, publicité avec l'extraterrestre à la BBC. C'est en anglais.
Ouais.
Mais vous l'avez, le lien sur YouTube.
D'accord. On va...
C'est la quatrième ou cinquième, juste au-dessus de C15 Obama.
D'accord.
Les gens vont comprendre qu'on a un scénario, hein, Bob, parce que c'était très rapide, il fallait débouler tout ça.
Ouais.
Et j'aimerais qu'on entende Bernard de Montréal à la toute fin, maintenant, parce que ça dure 3 minutes, mais c'est tellement complémentaire et c'est tellement important d'entendre d'autres voix que notre voix à vous et à moi, là, dans
bien sûr.
Le message. S'il était vivant, on recevrait Bernard et on écouterait au moins 3 minutes. Écoutons-le.
Le problème avec l'homme, ce n'est pas qu'il essaie de cacher la vérité, c'est que l'homme n'est pas capable de la sortir. Vous comprenez la nuance? Ce n'est pas qu'il cache la vérité, ce n'est pas que... D'ailleurs, vous prenez le président qui a précédé Reagan. Il a admis en public qu'il a vu un OVNI en 62, ça a été enregistré à Georgia et tout ça. Il a même demandé à la NASA de sortir l'information, tout ça. Et la NASA lui a répondu qu'on n'avait pas de méthodologie scientifique pour étudier le phénomène. Mais... le problème de la Terre n'est pas un problème de cache-cache. Ce n'est pas... au niveau des affaires de l'homme, oui. Que le gouvernement cache des choses sur le plan de l'expérience humaine, oui. Mais il n'y a personne d'assez puissant dans le gouvernement qui puisse, par lui seul, commander que se fasse le jour sur ces choses, parce que, psychologiquement, ce personnage perdrait sa crédibilité. Alors, ce n'est pas le président d'un peuple ou le premier ministre d'un peuple ou l'attaché militaire d'une nation qui est responsable, ipso facto, de cette complicité du silence. Ce sont les hommes. C'est l'humanité entière qui est complice du silence. Et la preuve, c'est que vous allez dans la rue et que vous parlez des extraterrestres aux gens, on vous rit à la face. Alors, vous vous imaginez que le politicien est très conscient de ça, surtout ces gens-là. Alors, ce sont les hommes qui sont complices du silence. Qu'on cesse de rendre les politiciens ou les organismes internationaux responsables de la complicité du silence vis-à-vis des ovnis et qu'on commence à éduquer les masses. Et comme vous faites. Et lorsque les masses seront éduquées, à ce moment-là, automatiquement, les gouvernements suivront. Ce ne sera jamais l'opposé. Et s'il doit venir un jour où l'homme ou la masse entre en contact avec des ovnis, que ce soit à une échelle mondiale, que les masses gardent le silence ou que les gouvernements gardent le silence, ça ne changera rien parce que ce ne sera une explosion totale dans le monde. Alors, d'ici à ce temps-là, que le peuple soit éduqué, qu'on éduque le peuple, que les gens qui sont dans la télévision ou à la radio éduquent d'une façon intelligente les masses, et à ce moment-là, les gouvernements, parce que les gouvernements fonctionnent toujours par un rapport barométrique avec les masses. Alors, si les masses vont dans une direction, les gouvernements sont les premiers à aller dans cette direction. Mais si les masses ont les œillères, c'est effectivement naturel que les gouvernements se refusent, surtout ceux qui sont seuls, ou deux ou trois, dans des organismes, de dévoiler sur le plan public des informations qui retarderaient l'évolution, soit de leur politique ou de leur programme politique.
Bernard de Montréal, qui disait à l'époque, qu'il fallait éduquer le peuple, comme on le fait un peu aujourd'hui, vous et moi à la radio, Richard.
Et tous les invités que vous recevez, Bob, il y a des grands noms, il y a des gens d'une très grande compétence. Vous aviez parlé de M. Bourret au début,
oui.
Lui-même qui avait fait à la fin de l'entrevue avec vous référence à la guerre des mondes, le film à l'époque, qui était paru au début des années 50, effectivement, et je respecte beaucoup M. Jean-Claude Bourret parce que j'ai lu ses livres, et je trouve formidable les invités que vous avez. Il y a des sommités, il y a des gens qui font avancer la conscience, exactement comme Bernard vient de dire, Bernard qui est décédé en 2003 d'un cancer, mais pendant de nombreuses années, il a été impliqué dans des réseaux justement parallèles aux ufologues, puis aux militaires, puis aux politiciens, des gens qui sont conscients des choses, mais qui savent qu'on ne peut pas faire avancer. On ne peut pas faire boire un cheval tant qu'il n'a pas soif. Hein?
Oui, c'est ça, oui.
Ouais, mais à un moment donné, on va lui donner le goût de l'eau, puis à un moment donné, il s'en passera plus. Alors, c'est ce que vous faites et c'est ce que je fais ici au Québec avec mes émissions. Alors, je pense que on est complémentaires tous les deux, chacun de notre côté de l'océan. Mmh. Et aujourd'hui, je suis tellement content qu'on ait réalisé à faire vivre ce scénario à la Orson Welles. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux?
Eh oui.
C'est la question qu'il faut se poser.
Ouais.
Faut arrêter de regarder la main qui pointe la bonne direction. Quand un chien, quand vous montrez la lune ou vous montrez le soleil, le chien vous regarde la main. Mais il regarde pas dans la direction où vous pointez.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Alors, quand on est conscient, on se dit, ah, il y a un message. Il y a un message qui nous amène au-delà de ce qu'on vient de faire ensemble.
Ouais.
Alors, les extraits qu'on a entendus, c'est de l'actualité. Ce sont des faits réels qu'on pourrait appeler collatéraux à la présence de ces êtres dans notre monde. Et vous savez ce qui est arrivé suite à l'échec des autorités du monde? Les extraterrestres les ont tous rencontrés un à un, chacun dans leur milieu, pour leur dire maintenant, vous avez la preuve que vous n'êtes pas l'autorité. Vous n'avez pas réussi à sauver le monde. Vous n'avez pas montré que vous avez pris la bonne direction. Alors, on va maintenant procéder par l'autre bout de la pyramide. Au lieu de se servir de ceux qui sont à la tête, on va se servir de la base, c'est-à-dire le petit peuple, le monde ordinaire. Et savez-vous ce que ça vient de produire, entre autres? C'est que les gens qui rapportent sur Internet leurs observations, qui rapportent sur Internet les phénomènes qui se produisent, que ce soit les spirales en ciel, que ce soit les sinkholes, les trous béants, ou que ce soit les morts massives d'oiseaux et d'animaux à travers le monde de manière mystérieuse, sans explication. Ben, c'est rapporté sur Internet. Ça alerte. Et ça alerte suffisamment pour qu'on ait fermé au mois de mai 2013 le fameux HAARP, H-A-A-R-P, qui est en Alaska. Et il y a peut-être la cause de beaucoup des problèmes qui sont apparus dans les dernières années. Alors, il y a des choses qui vont probablement changer si l'humanité prend conscience. Et ça, c'est peut-être ça le vrai message du phénomène extraterrestre. C'est pas de rapporter qu'il y a une soucoupe volante qui est passée là, ou qu'il y a rencontré monsieur une telle ou madame une telle. Mais maintenant, on se rend compte qu'il y a vraiment un scénario, un agenda, et ils nous ont dit que ça va prendre 10 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2023,
ouais.
Que nous allons passer par la base, les gens vont faire des rêves, les gens vont avoir des intuitions, les gens vont vivre des hasards merveilleux quand ils vont s'engager sur des voies écologiques, pacifiques, puis en faveur de la vie. Mais la vie naturelle, pas une vie organisée comme Monsanto et d'autres. Là.
Oui.
Et à ce moment-là, je pense que l'humanité va s'en sortir et va s'en sortir par elle-même. Par elle-même, c'est ça l'objectif des extraterrestres, c'est que ce soit les chefs d'État au début qui prennent les décisions et que tout le monde dit c'est eux qui ont pris les décisions, on les a appuyés, nous, la population. Maintenant, nous, le peuple, on doit agir. Et si on s'en sort parce qu'on aide les extraterrestres, ou les extraterrestres sont plutôt là pour nous observer et nous aider,
ouais.
Ben, tant mieux. Mais si on réussit pas, nous aussi, si on rate notre examen en 2023, ben là, il y aura probablement, pour éviter la destruction massive de la planète Terre, et si vous regardez ce qui se passe dans l'école de Borop avec Orton et les autres, Ashtar Sheran Command, sont un commando prêt à une évacuation massive, rapide, de la planète Terre, de ceux qu'on va appeler les justes, comme à l'époque de Noé, qui avait été considéré comme un juste,
ouais.
Des gens qui sont bien corrects en eux-mêmes,
ouais.
Qui seraient enlevés au ouais. moment d'une destruction provoquée par la stupidité des humains, mais pas par les extraterrestres, qui sont d'accord. pas des envahisseurs, comme le faisait croire Orson Welles. Bob et Richard Glenn, aujourd'hui, on vient de vous présenter, mesdames, messieurs, un scénario. Mais c'est pas des méchants, les extraterrestres, loin de là. Ce sont des veilleurs. Ce sont des amis cosmiques, mais tellement proches de nous. Et j'ai parlé de toujours ces extraterrestres qui sont du plan hominal, c'est-à-dire un peu comme nous, les humains, ouais. avec une tête, des bras, des jambes, un corps physique. Mais il y a évidemment des êtres sur d'autres niveaux. Hein. On a le plan minéral, végétal, animal, hominal, et au-dessus, il y a des plans angéliques, et il y a encore plus haut. Alors, on a parlé aujourd'hui de l'intervention d'êtres qui sont comme nos cousins, ou pour ne pas dire nos parents.
En fait, cette confédération galactique, puisque vous y faites référence, Richard, avec Orton et Ashtar, Ashtar Sheran, qui semble-t-il est l'un des chefs
hein, oui,
de
mais
cette...
Que ce soit, Bob, que ouais. ce soit vrai ou faux, là,
ouais.
partout où l'on parle, où on implique le phénomène extraterrestre, comme vous le faites vous-même dans votre émission,
ouais.
ces êtres-là sont conscients de ce que vous faites et de l'influence que vous avez autour de vous à travers le fait que vous parlez d'eux, en fin de compte. Ils vont être garants de ce qui va se passer. Alors, que ce soit vrai ou faux, Ashtar Sheran, Conan, avec son nom puis toute l'histoire, ça fait très à l'image de Star Trek, si on veut. Star Trek est apparu au début des années 60, juste après la mort de John F. Kennedy, pour nous ouais. faire comprendre que, justement, il y a une fédération des mondes habités, etc. Eh oui.
En tout cas, Richard, moi, j'ai été ravi ce soir de vivre cette... cet épisode incroyable des extraterrestres et de notre humanité. J'espère simplement que le message, de toute façon, quoi qu'il en soit, vrai ou pas, le message, il devrait être pris en considération parce qu'on a fait justement que de parler de nous au travers de cette émission pendant une heure parce qu'on est les responsables de notre destin. On voit bien que les grands de ce monde, même si on le met, si on les met si on les somme de faire quelque chose, si on leur remet devant les yeux notre société telle qu'elle est, ça bouge pas beaucoup et comme vous le dites, peut-être que le peuple va tout simplement les obliger à rentrer dans un chemin beaucoup plus vertueux et beaucoup moins matérialiste et beaucoup moins agressif.
Et par Internet, nous sommes tous maintenant ensemble dans le même village, j'allais même dire dans la même maison.
Ouais. Merci Richard Glenn d'avoir été là ce soir. Je rappelle que vous êtes l'ésotériste du Nouveau Monde, animateur, concepteur, producteur de l'émission Ésotérisme Expérimental. Vous avez animé une émission de télé au Québec entre 1976 et 1997. Maintenant, vous diffusez sur Internet. Merci mille fois et comme je le dis, on aura sûrement l'occasion de se reparler.
Vérifiez que votre porte est verrouillée. Branchez vos systèmes de sécurité. 21h minuit, tout peut arriver. Sur Ado, Bob vous dit toute la vérité.
Eh bien voilà, ce soir c'est terminé. Attention, je voulais vous signaler juste qu'on se retrouve dimanche pour le best-of. Les trois meilleurs entretiens de la semaine seront bien sûr réécoutables. Avant de partir, merci à tous ceux qui ont alimenté encore une fois les réseaux sociaux ce soir, le Facebook Bob vous dites la vérité ou encore tout simplement le Twitter Maudiez Bob Vérité. Merci à toute mon équipe, Hélène, Bess, Sylvain, Elliot, Mathieu, mais aussi Julien et Marco. Je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne nuit et comme je le dis tous les soirs, faites de beaux rêves ou de jolis cauchemars.
OVNI,
phénomènes paranormaux,
sociétés secrètes, mystères des pyramides, complot d'État,
Big Brother,
témoignages, révélations. Tous les soirs sur Ado, Bob vous dit toute la vérité sur ce qu'on nous cache depuis trop longtemps.